des problèmes de technique, enfin problèmes de table de mixage complètement anecdotique. Bien, donc tout de suite on va commencer, on va pas perdre plus de temps. Non, on t'entend pas, Guillaume. Voilà, donc on a un problème, on a vraiment plein de problèmes de micro partout. Regarde s'il n'y a pas un bouton sur le machin qui serait. Bien, on va régler ça au premier disque. Tout de suite, petit sommaire. De quoi on parle? On parle un peu de tout. On est tout le monde dans le studio. La culture en placard a atteint sa masse critique, c'est-à-dire qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retrouvera Mickaël qui est revenu, qui n'était pas là la semaine dernière. Vous retrouvez aussi Étienne qui, j'espère, nous a préparé quelque chose d'assez puissant. Chronique jeux vidéo de Clément qu'on n'a pas eu le temps de passer la semaine dernière et qu'on va passer avec un plaisir non dissimulé. Et quoi d'autre? La philosophie accessible de Guillaume Sanvito, dont le micro ne marche toujours pas. Chronique musique de Caroline, billet d'humeur, et Olivier nous parlera de Priest, je crois bien. Voilà, tout de suite, un premier disque, on vous en a parlé la semaine dernière. Caroline, tu veux peut-être le présenter?
Oui, je veux le présenter. C'est le fameux disque qui était pas arrivé à temps la semaine dernière, c'est Romain Humeau, avec donc l'album s'appelle toujours L'éternité de l'instant. Le titre qu'on va écouter, c'est S'enflammer. C'est pas forcément le plus représentatif, mais c'est quand même celui le plus accessible. Quand t'es prêt, Guillaume?
Moi, je suis prêt. Donc, Romain Humeau, S'enflammer, extrait de son premier album solo, L'éternité de l'instant. Donc, on vous rappelle que Romain Humeau, c'était le chanteur, mais aussi compositeur et à moitié producteur d'Eiffel. Et on se retrouve tout de suite après pour commencer Culture en placard, la 9e et non moins importante. C'est juste pour dire qu'on fêtera la 10e la semaine prochaine.
Culture en placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
Bien, c'était n'importe quoi. C'était Romain Humeau avec Caroline, avec
S'enflammer.
Avec S'enflammer sur son premier album solo, L'éternité de l'instant. On vous rappelle que Romain Humeau est le chanteur, enfin le leader du groupe Eiffel que nous aimons particulièrement bien. Tout de suite, on enchaîne avec Clément qui nous parle de Natural Selection, qui est un excellent jeu vidéo. C'est à toi, Clément, si ton micro marche.
Exactement.
Ah,
alors, bien. Je vais vous présenter donc Natural Selection, qui est un mode d'Half-Life au même titre que le célébrissime Counter-Strike ou d'autres comme Day of Defeat ou bien Team Fortress. Sauf que celui-là n'est pas très connu, pas très reconnu, à tort d'ailleurs, parce qu'il est vraiment excellent. Donc là, je sens que tout le monde va se foutre de ma gueule quand je vais annoncer le sujet du jeu. Je vois déjà un sourire poindre sur le visage de Guillaume, là, qui se dit il va nous sortir un truc absolument.
Ouais, c'est Guillaume, il est très préoccupé par rapport à que l'émission ait commencé à 20h20, en fait, parce qu'il se demande comment on va faire pour la suite, quoi. Donc, si tu veux que Guillaume il te squeeze pas ta chronique, t'as intérêt à aller vite, c'est juste ça. Quoi.
D'accord, bon, je me speed, c'est promis.
Guillaume est en grande, grande forme ce soir.
Ouais, Guillaume est malade, voilà.
Voilà. Comme tout
ça
le monde
arrive
à cette table, à peu près.
Voilà.
Non, même pas. Bon, donc dans Natural Selection, en fait, deux équipes s'affrontent. D'un côté, les aliens, de l'autre côté, les marines. Voilà.
Comme c'est original.
Merci, ça je m'y attendais. Mais c'est beaucoup plus original que ce que vous pensez. Vous vous dites tous, n'importe quel connard peut nous pondre ça. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a une dimension stratégique énorme qui se rajoute au jeu. Du fait qu'il y ait une unité spéciale chez les Marines, le commandeur, qui voit toute la carte de haut et qui lui joue à un vrai jeu de stratégie. Il dirige les unités, il construit des bâtiments, il fait des améliorations, il lâche du soin, il lâche des armes, il lâche plein de trucs.
C'est un peu comme dans Alerte Rouge, non?
Oui, Alerte Rouge, c'était il y a longtemps, mais c'est à peu près ça. Ouais.
Exactement. En fait, le commandeur lui joue un jeu de stratégie, les autres ils jouent un Doom-like, ils doivent se friter des aliens et autres. Côté aliens, c'est beaucoup plus individualiste, mais il y a quand même une gestion d'équipe, ils doivent se coordonner pour prendre des salles, prendre des points de contrôle et autres. Ajouter à cela une gestion des ressources, qui est quand même un véritable inédit dans un Doom-like. Et donc on doit contrôler différents points de ressources sur la carte pour accumuler un maximum d'argent, pour pouvoir acheter un maximum d'armes pour éradiquer l'équipe adverse. Pratiquement, on est quand même plutôt bien doté côté humain, avec des mitraillettes lourdes, lance-grenades et autres petites réjouissances du genre. Côté alien, c'est beaucoup plus trippant, puisqu'en fait il n'y a pas d'évolution et d'armes à proprement parler, mais on s'achète des mutations en plusieurs races. Du lerc, une espèce d'oiseau volant, c'est un véritable inédit dans Half-Life, Onos, un rhinocéros géant qui est capable de gober un Marines d'un seul coup, en passant par le Fade, qui est une menthe religieuse d'à peu près 2 mètres. Enfin bref, je vous raconte pas, il y a vraiment vraiment moyen de s'amuser et c'est réellement trippant. En plus, j'aimerais quand même préciser que Cocorico, le jeu, a la plus grosse communauté autour de ce jeu est une communauté française, et que l'équipe championne d'Europe et championne du monde est une équipe française. Voilà. Natural Selection, que vous pourrez retrouver sur naturalselection.com ou alors sur le site de l'éditeur qui s'appelle Unknown Worlds, unknownworlds.org, si je ne fais pas d'erreur. Voilà.
C'est bien Half-Life 1.
Half-Life 1, exactement.
D'accord, ouais. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tout de suite, enchaînement assez délicat, puisque Guillaume a promis de faire amende de sa saillie sur Adorno et Horkheimer de la semaine dernière, et donc de nous faire un papier philosophique accessible, simple, ludique, et j'ai même envie de dire tous les mots que j'ai dit, voilà, donc c'est à toi.
D'accord, d'accord. Donc pour faire simple et en essayant de, comment dire, ça va être très difficile parce que la dernière semaine j'ai annoncé qu'Adorno définissait la philosophie comme irrésumable, sinon inutile, et étant donné que je m'apprête à essayer de vous résumer sa pensée, ça va être sans vouloir la rendre inutile, je vous préviens tout juste que vous allez perdre du contenu, c'est sûr. Là-dessus, Guillaume me montre sa montre, qu'il n'a pas en plus, salaud. Pour faire rapide, en gros, ce que je vous ai dit la semaine dernière, pour faire très simple, c'est que Adorno définit les industries culturelles, donc ce qu'on va avoir traduit comme étant les cultures de masse. En gros, pour faire simple, ça fait deux fois que je le dis, la télévision, les cinémas, la musique, tout, en fait, toutes les industries qu'on puisse aborder de notre société, qui sont culturelles, qui apportent en fait de la culture. À partir de ces éléments, il va définir une critique vis-à-vis de ce progrès qui permettent, si on peut dire, d'avoir des armes vis-à-vis de la société qui nous entoure. Vous avez pu voir, grâce à la télévision, que c'est toujours mieux d'avoir du bonux comme lessive, ou alors d'avoir la lessive qui lave plus blanc que le blanc, ou même boire telle boisson, vu qu'on n'oubliera pas que les présidents de TF1 nous vendent un petit peu, nous, il faut pas leurrer la chose, ils vont nous vendre, nous, aux industries culturelles et aux publicités.
Le temps de cerveau disponible.
Voilà, le temps de cerveau disponible, la fameuse phrase. Sachant que, évidemment, il faut pas oublier que notre seul pouvoir face à la télévision est de pouvoir l'éteindre. C'est une donnée impossible à retirer de la chose, et donc, on a toujours ce contrôle. En fait, si on passe, tel que vous avez pu entendre la citation de Guillaume au tout début, si on passe du temps sur quelque chose, c'est qu'on lui accorde de notre temps. C'est pas que cette chose nous plaît ou qu'on y passe du temps, ou, enfin si, d'une façon ou d'une autre, mais en gros, on lui accorde de notre temps, de présence, de conscience, d'intelligence, de réflexion. Ce qui fait que plus on va leur accorder de temps, et plus cette chose va pouvoir avoir du contrôle un petit peu sur nous, utiliser en fait un programme, une programmation d'une façon ou d'une autre sur nos activités, notre façon de vivre. Vu que si on veut par exemple avoir les actus et de programmer du genre j'aimerais avoir les actus tous les jours, et ben il n'y a pas d'autre échappatoire que soit écouter France Info dans sa bagnole le soir en rentrant du boulot, ou alors regarder le journal à 20h, ou alors lire des dépêches AFP, ou dans le pire des cas, si jamais vous avez vraiment que ça à faire, écouter notre chronique Point Actu de Michael à 20h30, qui n'aura donc pas lieu à 20h30 ce soir.
Mais un peu plus tard.
Sinon, pour reprendre un petit peu ce que j'ai raconté, c'est que cette histoire, en fin de compte, d'industrie culturelle, d'industrie de programme, nous permet, nous arme pour comprendre un petit peu dans quelle société on existe, dans quel monde avec quel monde on cohabite, et la façon dont un être humain va essayer d'évoluer, parce que le but n'est pas de rester sur ce que l'on est, le but n'est pas de rester léthargique et de n'entretenir que l'existence de notre propre société, mais de les faire évoluer, de la développer au maximum. Et donc, pour ce faire, il nous faut, nous, tendre vers un état supérieur, si on peut dire. Donc là-dessus, je parlerai bien sûr du surhomme de Nietzsche, mm-hmm. qui est la définition de Nietzsche, qui fait que l'homme, en fait, est à mi-chemin entre le singe et le surhomme. Nous sommes qu'une étape transitive de translation.
Dans l'évolution.
Dans l'évolution, tout à fait, qu'elle soit intellectuelle ou même physique. Et donc, étant donné que l'on vise cet état de... Oh, on me fait signe. Étant donné qu'on vise, on vise cet état supérieur, le but est de ne pas s'arrêter à mi-chemin, mais d'aller jusqu'au bout du chemin. Donc là-dessus, je sens que j'en ai fait beaucoup. J'ai dû en noyer plusieurs. Je perds mon vocabulaire.
Pas
Guillaume,
du tout. Si vous avez d'autres questions à Guillaume, nous sommes connectés sur le chat en direct de Graphite, www.grafhit.fr.fm, et vous pouvez toujours nous écrire @ culture en placard tout attaché @graphite.fr.fm. Voilà.
Si t'es spécialement ouvert aux fans des uns et des autres, et pourquoi pas Guillaume si t'en as ce soir, je sais pas.
D'accord, tu es encore plus en forme que la dernière fois qu'on t'a eu dans le studio. Bien, un disque tout de suite, motivation dans ma voix. Non, un très bon disque, Olivier, tu veux peut-être le présenter. Il s'agit d'un grand titre de David Bowie.
D'un grand titre qui n'était pas très très connu, enfin qui est connu parce que Nirvana l'a repris en live dans sa session MTV. Il s'agit de The Man Who Sold the World, qui a d'abord été écrite par David Bowie.
Et oui, et ça personne n'en parle, et la version originale est quand même infiniment mieux, quoi. Bien, et tout de suite après, ce sera vous pourrez être témoin de l'humour, comment dire, en forme de tank, de l'humour dithyrambique, l'humour titanesque, l'humour tellurique. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, de Michael Vinicky. Juste après le Bowie qu'on va écouter tout de suite, c'est Graphite 94.9, Culture en placard. On se retrouve tout de suite après pour les infos.
Dites-moi d'abord où vous en êtes dans l'interprétation de ce langage de Martien.
Culture en placard, le lundi 20h, ça graphique.
On retrouve tout de suite Michael pour sa chronique actualité. C'est à toi.
Bonsoir à tous, lundi 9 mai 2005, les actualités de ce jour.
Une actualité internationale marquée d'abord par des attentats en Birmanie, je crois, et une certaine censure au niveau de leur couverture médiatique.
Tout à fait, en Birmanie, il y a eu 3 attentats ce week-end dont on n'entend pas beaucoup parler. Le gouvernement militaire birman a imposé en effet un blackout sur le bilan de ces attentats à Rangoon, s'en tenant à un chiffre de 11 morts qui semble largement sous-évalué. Alors qu'une psychose au nouvel attentat s'est emparée de la capitale, il a aussi été ordonné la fermeture toute la semaine des centres commerciaux de Rangoon. Le bilan des tués n'a pas évolué en 48 heures, alors que pas moins de 162 blessés ont été hospitalisés de sources officielles et certains dans un état grave. Des médecins du General Hospital, le plus grand de la capitale birmane, ont admis avoir reçu l'ordre de ne pas parler aux journalistes. Un blackout sur les informations a été imposé, a dit l'un d'entre eux à l'AFP sous couvert de l'anonymat. On sait en effet que le gouvernement birman est connu pour faire traditionnellement de la rétention d'informations en matière de bilan lors de troubles liés à la situation politique et même lors de catastrophes naturelles, lorsque celui-ci estime que les chiffres peuvent nuire à la réputation du pays.
Actualité internationale toujours, au Proche-Orient, on aurait un petit avant-goût de ce qui pourrait devenir des élections législatives.
Effectivement, à Ramallah, le Fatah est arrivé en tête des élections municipales partielles qui se sont déroulées jeudi dans les territoires palestiniens. Mais le Hamas s'est emparé de plusieurs centres urbains selon les résultats officiels. La formation du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, l'a emporté dans 50 des 84 conseils municipaux en jeu dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Mais 30 sont revenus au mouvement islamiste qui confirme son statut de principal concurrent du Fatah pour les législatives prévues en juillet.
Et pendant ce temps, à Téhéran, l'inquiétude monte.
Tout à fait. L'Iran annonce qu'il reprendra dans les tout prochains jours ses activités liées à l'enrichissement de l'uranium, initiative dont Washington et l'Union européenne ont averti qu'elle entraînerait le renvoi du dossier nucléaire iranien devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
Actualité française, merci de me faire un geste, Michael. Actualité française, hier c'était 8 mai, hein, parce que personne n'en parle, comme c'était un dimanche. Donc tout le monde
désolé pour
foutait.
Le geste, Guillaume, était tellement bon que.
Voilà. Et donc, ouais, c'était un 8 mai assez particulier, parce que c'était donc le 60e anniversaire de la victoire de 1945.
Et tout à fait, le président de la République, Jacques Chirac, a présidé hier à Paris la cérémonie du 8 mai 1945 en déposant une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. Jacques Chirac, qui a passé en revue les troupes autour de la place de l'Étoile, a été accueilli à sa descente du commande-car par le ministre de la Défense Michel Alliot-Marie. Pour marquer le 60e anniversaire de la victoire des Alliés sur le nazisme, les troupes françaises ont été renforcées par une représentation des armées alliées. Ainsi, 14 drapeaux alliés accompagnés de leurs gardes étaient présents à l'Arc de Triomphe. Enfin, fait exceptionnel, la patrouille de France qui a clôturé cette cérémonie par un passage au-dessus de l'Arc de Triomphe.
En revanche, il y avait un absent notoire à ces cérémonies.
Oui, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a subi samedi une intervention chirurgicale pour qu'on lui retire un calcul à la vésicule biliaire. Cette opération s'est bien passée, c'est une opération douloureuse mais normale, cela peut arriver à tout le monde, a expliqué ce matin Michel Barnier sur RTL. Jean-Pierre Raffarin qui a quitté ce soir l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour rejoindre l'hôtel Matignon.
On est tous très contents et soulagés que notre Premier ministre soit de nouveau capable de secréter du fiel. Bien, le jour férié de la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'est la semaine prochaine, fait toujours un petit peu débat.
Oui, il y a une semaine du jour de solidarité instauré le lundi de Pentecôte, 56% des Français se montrent favorables au mouvement des syndicats opposés à la suppression d'un jour férié, selon un sondage paru ce matin, publié dans l'Humanité. Ils sont 37% à soutenir le mouvement et 19% à avoir de la sympathie, particulièrement chez les ouvriers, les cadres, les employés, mais aussi les retraités.
Et alors aujourd'hui à Argenteuil, une simulation grandeur nature d'attentats chimiques, c'est ça le plan Piratox?
Tout à fait, coordonnée par la préfecture du Val d'Oise et la ville d'Argenteuil, cette simulation visait à tester la réactivité des secours et de la police dans le cadre du plan Piratox, un dispositif d'urgence activé en cas d'intoxication chimique massive d'origine terroriste ou accidentelle. Pour que la simulation puisse se dérouler dans des conditions les plus réelles possibles, les habitants d'Argenteuil n'en avaient pas été informés selon la préfecture.
Ça a dû donner quelque chose de grand. Tout de suite sans transition, le sport. D'abord, résultat de F1, je crois.
Oui, tout à fait. C'était ce week-end le Grand Prix de Barcelone et Kimi Raikkonen et McLaren Mercedes ont enfin confirmé dimanche à Barcelone leur capacité à viser le titre mondial de Formule 1 en dominant largement la Renault de Fernando Alonso, tandis que Ferrari a encore déçu avec l'abandon de Michael Schumacher. Kimi Raikkonen qui finit donc devant Alonso et Trulli. Au classement des pilotes, Fernando Alonso, pardon l'espagnol, est toujours devant Yarno Trulli et Kimi Raikkonen. Le prochain Grand Prix aura lieu le 22 mai à Monaco sur un circuit mythique où tout peut arriver. Enfin, pour les passionnés de Formule 1, sachez qu'à chaque Grand Prix, l'atelier Renault sur les Champs-Élysées à Paris reçoit les spectateurs. Vous aurez notamment droit aux commentaires de l'ancien champion de Formule 1 Patrick Tambay, des d'Alexandre Delperrier, des commentaires diffusés sur RMC Info.
Non mais là tu viens. Bien, foot, terminé avec le foot avant d'être mis à la porte.
Allez, tout à fait. En Ligue 1, c'est fait. L'Olympique Lyonnais, vainqueur d'Ajaccio 2-1 en clôture de la 35e journée de Ligue 1, n'a pas fait durer le suspense en décrochant dimanche son 4e titre consécutif de champion de France. Autre résultat, Lille s'impose 1-0 contre Paris, nul entre Monaco et Rennes et surtout défaite de l'OM face à Caen 3-2. Pour le maintien, en revanche, l'incertitude demeure. Pas moins de 6 équipes de Metz à Caen peuvent accompagner en Ligue 2 Istres. Seule formation mathématiquement relégué après sa défaite à Bastia. Et pour être tout à fait complet, sachez qu'il est désormais officiel que Paul Le Guen, l'entraîneur de Lyon, quittera le club la saison prochaine. Il a annoncé dans l'après-midi lors d'une conférence de presse. Il n'a toutefois pas précisé à quel avenir il aspirait.
Ah, et attends, pardon, une petite brève insolite.
Allez, une petite brève insolite. Saviez-vous que les avions militaires russes en particulier, savaient dissiper les nuages dans le ciel?
Non, moi je ne le savais pas, j'avoue que je suis surpris par la technologie militaire.
On le découvre.
Eh bien, le ministre russe de la Défense, Sergueï Ivanov, avait annoncé la semaine dernière que des avions russes disperseraient chimiquement tout nuage, menaçant d'entraîner une averse sur la place rouge et au-dessus des têtes des dirigeants venus du monde entier lors des cérémonies du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'occasion, l'armée russe a donc mobilisé 11 de ses avions militaires, chargés d'un agent chimique qui est utilisé depuis des années par la Russie. C'est un fait rapporté par les agences russes. Ce produit avait déjà garanti des Jeux Olympiques ensoleillés à Moscou en 1980.
C'est excellent.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 10h, alors que l'heure de la parade militaire approchait dangereusement, de gros nuages ont commencé à s'amonceler au-dessus de la place rouge. Un groupe de dignitaires a même dû saluer Poutine tout en se blottissant sous leur parapluie. Mais tout s'est éclairci au moment précis où... Où George Bush et Laura Bush sont apparus et ont parcouru les 50 mètres séparant le Kremlin des tribunes dressées sur la place rouge. La pluie s'est arrêtée, les nuages ont disparu, le soleil est apparu alors que le couple présidentiel prenait place aux côtés de Poutine. Ivanov a précisé que l'opération de dispersion des nuages avait eu lieu à 9h45. Si les avions avaient mené l'opération plus tôt, des averses orageuses seraient venues perturber la parade, a-t-il déclaré à l'agence russe Rianovosti. Selon les autorités russes, bien sûr, les agents chimiques utilisés sont respectueux de l'environnement.
Tout ça. C'est bien, moi je dis que je trouve bravo.
George Bush est un envoyé divin.
Clairement.
La preuve est là.
On a trouvé une utilisation aux avions de chasse qui enfin est un petit peu pacifique et sympa. Alors tout de suite, on écoute un groupe qui s'appelle The Cellos.
Yeah.
Avec un titre que j'ai du mal à lire puisqu'il s'agit de Rong Tang Ding Dong.
Voilà, autrement dit.
I am a Japanese Sandman.
Superman.
Non, Sandman.
Superman.
Non, Sandman.
Ah, Sandman, excuse-moi.
C'est sous les yeux.
Le livreur de sable, c'est vrai.
Parle-nous-en parce que c'est une ta sélection.
Et c'est tiré de la BO de À tombeau ouvert, autrement dit en anglais Bring Out the Dead, film de Martin Scorsese, sorti en 97-98.
Pas plus tôt.
Non, pas plus tôt que ça. Avec Nicolas Cage en rôle principal, mais énormément d'autres bons acteurs. Un très bon Scorsese à voir. Et cette BO, je vous passe pas forcément le morceau le plus accessible, mais ceux qui auront vu le film vont se marrer.
Et tout de suite après, on se retrouve avec le billet tant attendu d'Etienne qu'on a dû un petit peu déplacer. A tout de suite.
À quel endroit allons-nous chercher? Le seul indice que nous ayons est la parole d'un muet.
Culture en placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
Et vous entendez un fond sonore assez inhabituel pour Culture en placard, puisque tout de suite il s'agit de la chronique.
Le foie. Alors comme disait Bukowski, buvez plutôt du vin.
Voilà.
Je suis super content. Premièrement, Koué s'est fait allumer sur Koué. Place.
Koué,
oui.
Pas Koué.
Non, pas Koué, comme le pharmacien.
Koué, de la méthode.
Ouais, non.
Voilà. Enfin, si, de la méthode, mais de la mauvaise, quoi. Jeudi soir sur TF1.
C'est-à-dire, donc lui s'est fait allumer sur place par la blonde de la Minute Blonde. Et quand je dis allumer, je pense bien sûr à détruit. C'est génial. Je cite donc la blonde, Dorothy Doll. Les gens qui vous aiment disent que vous êtes le fils spirituel d'Arthur. Et les gens qui vous détestent disent que vous êtes le fils spirituel d'Arthur. Moi, c'est le côté spirituel que je vois pas du tout. C'est fabuleux. Moi, j'ai toujours pensé, personnellement, que les blondes pouvaient être intelligentes quand ça les arrange de pas passer pour des demeurés. et que les chauves eux-mêmes pouvaient être très cons. En voici donc deux magnifiques exemples, et deux magnifiques exemples, monsieur le philosophe, je pense que je vais pouvoir écrire une théorie. Deuxièmement, je suis enfin allé au Père Lachaise pour cracher sur la tombe de Parmentier et vider mon cendrier sur celle de Desproges, ce qui a beaucoup agacé le guide. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri, suivant en cela l'enseignement du maître qui disait « On ne rit jamais de bon cœur que dans les cimetières ». Exemple, voici la tombe de Géricault. Géricault, l'auteur du... Radeau de la Méduse, merci de ne pas suivre. Il y en a encore qui coulent.
Non mais il n'y a pas de micro ouvert en fait.
Ah pardon. Non mais je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui n'ont pas suivi en fait.
Ah oui, non bien sûr. Ouais.
Non, donc en fait je regarde.
Mais là ils font la cuisine si tu veux. Enfin les auditeurs sont occupés parce qu'ils allument la radio en même temps que leur plaque chauffante.
Mais les auditeurs aussi leurs micros sont coupés.
Exactement, c'est ça le problème.
Monsieur, je vous fais pipi sur la tête. Voici la tombe de Géricault, donc le radeau de la Méduse. Sa première passion était donc la peinture. Hein ? Quelle était sa seconde passion ? Réponse de votre serviteur, il était musicien. Non, pas du tout. Ah bon ? Pourtant, je croyais rapport aux trompettes. Voilà.
Bien.
N'empêche que arriver à blaguer sur les trompettes de Géricault dans un cimetière, si je ne me trompe, ça pète. Oui, bon, donc je propose de passer à la troisième raison de ma jovialité. Troisièmement, donc, j'ai vu les photos de Miss France 2004 dans Playboy.
Oh là 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 là!
Chers amis,
sous la douche,
parce qu'on
a, on a les preuves visuelles dans le studio. Alors, Mickaël ne se tient plus.
Non, c'est... Bon, donc cher chef d'émission, vous pourrez remarquer en fait.
T'es hautement subversif là.
Je vais en fait.
Oui, tu t'abaisses à notre niveau.
Voilà,
au leur. Bien.
C'est la page 47. Ils sont en train de se battre en fait avec. Donc, je signale au pervers de ma catégorie qui se tâte pour s'acheter ce magazine que ça ne sert à rien de s'exciter.
Se tâte, c'est le mot. Hein.
Et ce, pour plusieurs raisons. Un.
Rends le magazine.
Passez-moi ça.
Rends le magazine.
J'en ai besoin.
J'en ai besoin pour la fin de sa chronique.
Merci.
Y'a rien à voir.
Miss France n'est pas la pouf du mois.
Oh, la pouf du mois, elle est violente. Yes.
2. Miss à poil de 2005 est moche.
3.
Miss France aussi.
Ah, oh, mais elle est pas mal, fin de visage.
4. On voit rien, j'aurais pu poser à sa place, ça aurait fait le même effet. Et 5, on n'a plus le droit de dire Miss France en parlant de Laetitia Bléger.
Bah oui, justement, depuis ça...
Bon, pour continuer dans les personnalités déshabillées qui font plus rire qu'autre chose, quatrième raison de mon indicible joie, Sartre. Jean-Paul, mari de Simone de Beauvoir. La Bibliothèque Nationale, la seule, la vraie, l'unique, organise une expo sur l'inventeur de l'existentialisme. Ce qui m'a fait beaucoup rire, ce n'est pas que l'on puisse faire une exposition sur un gars qui, bien après Descartes, a réussi le tour de force d'imposer une tautologie comme base philosophique. Je rappelle aux infirmes philosophiques que Descartes, c'est « je pisse, donc je suis, je pense, donc je suis », pardon. Et Sartre, c'est « je suis, donc j'existe ». Ce n'est pas non plus que l'on puisse se demander si Sartre est ou non un auteur classique, c'est le but de l'exposition. Non, pas du tout, ce qui me fait uriner est que Sartre était un clopeux. Un fumeur, un cancéreux en puissance.
C'était très mal vu, enfin c'était moins... Non, je veux dire, c'était pas mal vu à l'époque justement.
Oui, un têteur de gitane, un empesteur de tabac froid, un drogué à la nicotine, un mégoteux. Or donc, par la grâce de la loi Evin, 1991 si je ne m'abuse,
tout à fait.
La Bibliothèque Nationale a... enlever le mégot sur la photo de l'affiche de l'exposition. Nous avons donc maintenant une magnifique affiche avec en haut à gauche la tronche du scribouilleur et en bas à droite une main avec l'index et le majeur en serrant rien du tout. Donc, l'année prochaine, exposition Fidel Castro est-il l'égal de Cicéron en rhétorique ? L'affiche reprendra une photo de Fidel avec les lèvres débarrassées de leur cigare inopportun. Au moins, Lucky Luke a réussi à garder un brin de paille. Bon, je vous laisse. Je conçois bien que ce trop de bonheur à contempler les trépignements grotesques peut amener la nausée chez le commun des électeurs. Ah, sordide d'humanité, tu ne méritais pas de voir souffrir le Christ.
Oh là là, diabolique. Bien, Olivier, c'est à toi en fait, puisqu'on fait sauter le disque d'Asian Dub Foundation qu'on a déjà, je crois, fait sauter la semaine dernière. Mais bon, c'est dommage parce qu'en plus, leur dernier album qui s'intitule Tank est très très bon et ils l'ont plus ou moins bricolé dans des chambres d'hôtel avec des sampleurs portables. Tout de suite, Olivier, tu nous parles de Priest pendant que je charge un fond sonore de Bon Aloi qui se fout autre chose que ça. Voilà. Voilà.
Voilà, avec un micro ça marche mieux.
Oui. C'est fini là, mais vous l'écoutez pas, vous s'en foutez.
Ils vont ranger leur Playboy parce que je leur passais des mangas. Parce que je suis venu avec ma petite collection aujourd'hui.
Je suis plein de tiennes parce que vraiment ramener des magazines comme ça pour tout le monde, je trouve ça génial, super. Enfin, j'adore.
Attends, il y a mieux, il y a Priest. Et je suis pas sûr en même temps. Enfin, il y a pas beaucoup de femmes avec des tétons, tout ça. Et... Bon, bref.
La semaine prochaine, je ramène le calendrier des rugbyman. Ouais!
Et moi, je ramène le calendrier des filles de l'UTC.
Bien. Et bien, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, un petit peu de sérieux.
S'il vous plaît, là, je sais que vous êtes tous complètement allergiques au travail, mais c'est pas encore la Pentecôte, quoi. Donc, si on pouvait continuer et laisser Olivier faire sa chronique.
Bien, donc je vous parle.
Tout le monde a de la lecture, là, donc c'est bien.
De voilà. Priest ce soir. Alors, Priest, ce n'est pas Christopher Priest, l'auteur de science-fiction qui sera demain soir à la librairie des signes de Compiègne. C'est Priest, le manga. De quoi ça cause? Alors, mes petits camarades ont entre leurs mains les divers exemplaires que j'ai apportés. Ils peuvent constater que c'est l'histoire d'un prêtre qui s'est retrouvé maudit. C'est génial parce que la couverture, c'est un. Donc, le prêtre qu'on voit, c'est un petit peu cow-boy. Et puis, il y a plein de sang sur lui. Ça m'a tout de suite donné envie d'acheter ce livre dès que je l'ai vu en rayonnage. Alors, ça se passe dans un univers western. Moi, j'adore le western, donc déjà, je l'ai pris. Ensuite, qui est le premier? C'est Guillaume qui est le premier? Ouais. Ouais, Guillaume est le premier. Il verra qu'à la page 20, il y a déjà des zombies qui apparaissent.
Ouais,
histoire de démonter le prêtre. C'est
moins
fait.
Moins que ça, les pages!
Donc, c'est fait par Yong Ming-woo, c'est un coréen, donc ce n'est pas un manga, c'est un mangwa.
Tu m'expliques la différence là, entre manga et mangwa?
Le manga vient du Japon, le mangwa vient de la Corée. Donc ça s'inspire, mais c'est pas vraiment ça, c'est des fils spirituels, entre guillemets.
C'est comme un peu le... Ah, on va parler à Étienne un petit peu dans le domaine qu'il connaît, tu vois la différence entre la Stout et la Lager?
Ah ouais.
Tu vois, enfin... Okay.
Bien. C'est bien de poser la question. Il faut savoir que l'auteur n'est pas influencé par le manga directement, il est plutôt influencé par la BD européenne, donc c'est bien le souligner, et par les comics américains, donc ça se ressent énormément dans le style. Guillaume demande.
J'en veux bien hein, pour regarder. Ah merci. Merci.
Je disais quoi? Oui, donc vachement inspiré par la culture européenne et du comics. Donc ça se ressent dans un trait graphique extrêmement violent, extrêmement. C'est l'instant du moment qui compte pour lui quand il fait son dessin. C'est-à-dire que si jamais il y a une trace de café sur sa planche, il s'en fout parce que c'est le moment où il l'a fait, il garde la planche avec la trace de café.
Non, j'ai la page sous les yeux, ce n'est pas du café, Olivier.
Non mais
effectivement, bah pour donner des détails en termes de plébien et moi qui n'y connais rien, on sent que le character design, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'on dit, ça se lit dans le bon sens ou pas?
Ça se lit dans le bon sens, oui.
D'accord.
Enfin, je sais pas,
et plus proche de l'Occident et des comics, effectivement, et la manière de cadrer le mouvement est beaucoup plus proche des comics.
Mais écoute, c'est quelqu'un qui a été...
Et de placer les phylactères que de la BD asiatique, quoi, pour le peu que j'en connais, quoi.
Donc c'est quelqu'un qui a grandi avec le cinéma américain, donc ça se ressent énormément également, Étienne.
C'est ça, justement, je me disais en fait, au vu des cadrages, ça faisait très western.
Ah, mais c'est.
Non, pas western spaghetti, mais western américain.
Exactement. C'est d'ailleurs un argument fort de ce.
Arrête, Michael, je ne veux pas voir le. Ah, qui veut gagner des centimètres dans Playboy? Vas-y, continue, Olivier.
Je continue. Donc, l'histoire, en résumé, c'est l'histoire de Ivan, qui s'est retrouvé. Parce qu'il est amoureux d'une fille. Bon, c'est un pasteur, mais c'est pas grave. Est amoureux d'une fille. La fille s'est fait tuer. Le drame dans sa famille. Et ce qui fait qu'il a renié son dieu. Donc, le dieu. Pour devenir un disciple de Temozar, qui est le disciple d'un ange déchu qui a renié Dieu également.
Et c'est donc, pour ça qu'il a cette tronche-là, en fait.
Oui, parce qu'en en fait, il est mort, mais pas tout à fait.
Ah, c'est technique.
Influence The Crow, non?
Ouais, un petit peu, mais bon, il y a.
Ça sent The Crow.
C'est un melting pot culturel, je dirais.
N'est-ce pas? Comme un peu un patchwork.
Ouais, voilà, mais ça se ressent pas trop, parce que c'est quand même. Moi, j'arrive pas à voir d'où il a pécho son style, en fait. Tellement c'est anguleux, tellement c'est le cinéma, c'est sûr, mais par contre sur le style graphique c'est très mélangé.
Ouais, c'est un style qui lui est propre. Hein,
voilà, c'est un style qui est propre. J'ai vu une photo du mec, c'est quand même tatoué, crâne rasé, piercing.
Cela dit, moi quand j'ai vu l'auteur de Tessa qu'on a eu en interview, enfin téléphonique justement, et quand je l'ai vu en vrai 10 jours après, j'ai halluciné quoi.
Voilà, mais c'est, t'imagines ça encore un petit peu plus trash.
Ah ouais, c'est.
Et c'est quelqu'un de très jovial, ça l'est en passant. Et donc voilà, c'est aux éditions. Oui, je disais, le scénario est complexe, mais pas compliqué. Ok. C'est aux éditions Tokebi, qui sont spécialisées dans le manga coréen, dans le manhwa coréen. L'auteur, je le répète, c'est Yoon Min-woo. La série, c'est Priest. C'est en noir et blanc. Il faut l'acheter tellement c'est bien. Mes petits camarades sont d'accord.
Oui, on vote pour.
Voilà, merci Guillaume.
Voilà, donc Guillaume, si vous l'avez pas entendu à cause de son micro qui ne marche pas, a dit merci à fond, elle est trop belle cette série. Et puis il a ensuite rajouté dans sa tête que j'ai entendu, et puis ça change de Adorno quand même. Clément, tu nous présentes le disque suivant qu'on écoute, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que donc?
Alors c'est un petit groupe américain qui s'appelle Mad Caddies, qui nous vient directement de Santa Barbara. Ne me regarde pas comme ça Guillaume, c'est un groupe très très sérieux.
Je bois tes paroles.
Tu bois mes paroles.
Comme du petit lait.
Ah mon dieu, mais c'est à cause du Playboy, t'es complètement...
Non mais je tourne au thé vert là, j'ai une crève d'enfer. J'arrive plus à penser clairement quoi.
D'accord, donc c'est un petit groupe américain qui s'appelle Mad Caddies, qui pratique un truc qui est un peu entre le ska, le punk et le jazz, donc c'est franchement space. Le titre qu'on va écouter s'appelle Road Rash, il est extrait du deuxième album qui s'appelle Duck and Cover, et qui n'est pas le meilleur album de Mad Caddies, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez commencer à vous y mettre, il vaut mieux commencer par Just One More ou Rock the Plank, qui est très bon. C'est assez difficile à trouver en France, je vous le dis tout de suite. Il n'y a que les disquaires à Paris où vous pourrez trouver quelque chose comme ça.
Mais sinon, ça se commande facilement sur un internet quelconque.
Exactement.
Bien, bien, bien. Et donc, juste après ce disque, ce sera le billet musique de Caro, qui nous a elle aussi fait une sélection. A tout de suite sur Culture en Placard, 94.9, graphique, tout ça. Il part ton CD. Ah, ça y est, c'est ça. Il y a du bruit au début. Avant de s'en parler, voilà, ça commence.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est la Saint-Martin, on tue le cochon?
Culture en Placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
Nous revoilà après un disque dont le nom m'échappe parce que Clément est pas sous la main.
Mad Caddies Road Rash.
Voilà, que vous trouvez sur leur deuxième album. Tout de suite, musique, toujours avec Caroline, la douce, la délicieuse Caroline.
Là, j'ai...
Wow. Oui, tu te méfies, là.
Je sens le retour de bâton.
Pas du tout, vas-y, je t'en prie. De quoi nous parles-tu? Tu parles de Feed, je crois.
Je vais parler de Feed. Alors, Feed, c'est un gars, a priori, qui s'est entouré de bons musicos et qui est venu remplacer Prom au festival dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, qui est le festival de Châlons-en-Champagne, les Moissons Rock. Et c'est là que je suis complètement tombée amoureuse de ce qu'il fait. Et en l'occurrence, aussi de son ingé son, mais ça n'a rien à voir. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous ai parlé de Romain Humeau la semaine dernière, et Romain Humeau, c'est vrai que c'est une ambiance aussi noire que Feed. C'est du rock, c'est du funk, c'est du blues, ça fait sourire, ça met de bonne humeur, parce qu'on aime bien ranger les choses dans des boîtes plus ou moins classifiées. Va le falloir le mettre dans une boîte, on va le mettre dans la même que Sinclair et que M, et je pense que ça devrait lui faire plaisir, puisque c'est à peu de choses près les influences qu'il a eues. Entre autres, il a écouté énormément de choses anglaises et il s'est mis à faire du rock, enfin à jouer sur tous les instruments qui lui tombaient sous la main. Il a fallu qu'il se débrouille pour les paroles parce que c'était pas trop son truc. Il a longtemps fait du yaourt dans sa chambre bleue de 2 mètres sur 3. Ça sent la chambre du Crous ou un truc comme ça. Et il est tombé sur un comparse qui lui a écrit des paroles qui sont soignées. C'est un bonheur. Ça sent la simplicité, c'est les choses qu'on a tous vécues. Ça va être... Ils arrêtent pas avec Playboy là. Faut
non mais il y a des bons, bons articles dedans, très intéressants. Ouais. On lit Playboy pour les articles de fond. Hein.
Donc très profond d'ailleurs.
Non mais c'est vrai que maintenant ça s'est beaucoup dégradé, mais il y avait une époque où Playboy était un magazine culturel où il y avait aussi des
un peu comme Culture en Placard en fait.
Ouais voilà à peu près, ouais, tout à fait.
Donc pour remonter le niveau de ce qui vient d'être dit, je repars sur Feed. Et je dis aussi que les paroles qui sont faites, donc avec, ça va être Christophe Vial, je suis plus sûr du prénom.
Si.
C'est Vial, mais
c'est Vial, ouais.
Mais je suis plus, je crois
Christophe,
que c'est Christophe
certainement.
Ça va être sans doute Christophe. Désolé si je me trompe.
Désolé Christophe, hein, si tu nous écoutes, t'étais content qu'on parle de tes paroles, non.
Mais en fait, c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a tous vécues. Le coup de la petite copine qui sort à moitié trempée de la salle de bain et puis qui vient allumer un peu. On retrouve ça de toute façon dans le titre qui va passer après, qui s'appelle Super Cool. C'est
Et c'est l'occasion de reparler du Playboy à la page 32.
Je vais arrêter, je vais me faire pourrir ma chronique sinon.
Plus que d'habitude.
Juste un petit peu plus. Parce que je vous sens un peu excité là quand même.
Pas du tout. Parce que moi, faut voir que. Alors, les auditeurs ne connaissent pas la configuration géographique du studio. Je suis tout seul face à la console. Et en fait, tous les chroniqueurs sont en face. Donc, ce qui fait que le Playboy circule depuis tout à l'heure, n'est-ce pas, à l'ouest du studio. Et moi, je suis de l'autre côté du mur. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'y toucher. À part quand Mickaël est passé tout à l'heure pendant. Et en disant, regarde. Et puis alors, j'étais en train de lutter pour pas que ça s'entende dans le micro. Enfin bon, bref. Bien.
Donc, bah, ça tombe bien, ça va faire la transition sur le point suivant que je voulais aborder. C'est le fait que le jour où Fid va être. On va encore me traiter de racoleuse, alors je vais prendre les devants. Ouais. Caroline, t'es une petite racoleuse, pas bien. Bah, le jour où Fid va commencer à être célèbre, je pense que le taux de natalité de la France va faire un bond colossal. C'est de la chanson, c'est la chanson qui fait briller les yeux, on va dire. On sent dans le personnage de Fid, puisque c'est un personnage qui a été créé quelque part.
Un peu comme M.
Un peu comme M, mais moins prononcé en fait. Mm-hmm. On sent un peu le gars, un peu le loser de la drague, mais le gars qui arrive quand même. Quoi. On se sent proche de ce gars-là, qui hors scène est de toute façon un gars avec une gentillesse énorme, un peu comme son ingé son.
Faut que t'arrêtes, hein.
Ouais, il va falloir que j'arrête ça aussi. Et en fait, il y a vraiment une bonne ambiance. On le voit arriver sur scène, la belle fringue, juste ce qu'il faut. On l'entend pleurer sur sa coupe de cheveux qui a tendance à friser au fur et à mesure, mais c'est tout un personnage. De toute façon, vous allez le voir quand vous allez, enfin, vous allez écouter en l'occurrence, c'est de la radio. Vous allez voir dans les sonorités de la voix, c'est. Il y a des sous-entendus, il y a des phrases qui tombent sur des soupirs, sur des murmures, c'est un bonheur.
Bien, on va tout de suite écouter, c'est son premier album je crois.
Je crois bien que c'est son premier album.
L'album s'appelle Mes Univers et l'artwork est sympa.
Et par contre on n'arrive pas à le trouver parce qu'il n'est pas distribué par une grande maison de disques. Donc il faut aller le commander sur le site du gars qui c'est www.fid, donc F2ED-mesunivers attaché et au pluriel.com.
Alors redis parce que là on a paumé le truc quoi, vas-y.
Donc je vais l'appeler www.feed-mesunivers.com.
D'accord, c'est Fid-nom de l'album qui, on vous le rappelle, s'appelle Mes Univers.
Et
on écoute tout de suite Super Cool. Et alors il y a une petite intro de 17 secondes que conformément aux instructions très précises de Caroline, on m'a demandé de laisser, donc on va voir ce que ça donne. Ah, magnifique intro.
Dakar, tous les lundis 20h sur Graphite.
Nous venons d'écouter Fid avec Super Cool, extrait de son premier album Mes Univers. Caroline, un dernier mot.
Juste pour confirmer, j'ai aimé l'attitude sur scène. Je cite Guillaume qui m'a dit hors antenne, qui m'a dit texto, je sens que ça va vite passer sur Graphite.
Voilà, bah oui, non, mais clairement, on va essayer de faire pression pour que ça se fasse. Eh bien, il nous reste simplement le billet d'humeur de Guillaume.
Sans déconner déjà.
Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est atrocement dans les temps. Il est 21h13, il s'est passé un truc là. On a commencé avec une heure de retard. Mais il y a un truc qui a sauté, c'est pas possible.
Vérifie.
Jeux vidéo, c'est fait. Philo, c'est fait. Papier Etienne, c'est fait. Actu, c'est fait. Prise, c'est fait. Musique, c'est fait. Billet d'humeur, discussion.
Toi aussi, il fait de la radio avec Graphite.
Complètement. Ouais.
Je peux remettre un coup sur la philo là.
Non, ça non.
Je peux remettre un coup sur Fid.
Non, je vais essayer d'ouvrir. Bah, à ce moment-là, toi, je vais tenter un truc que j'osais pas essayer ce soir. Mm-hmm. Je vais me permettre d'aborder un sujet que je maîtrise très peu. C'est-à-dire, je vais aborder un sujet télévisuel, audiovisuel, qui, nous concerne tout un chacun. Bien évidemment, je vais parler d'un événement qui s'est renouvelé, qui avait démarré l'année dernière, à la même époque.
Non.
Qui va être exactement le même cette année. Juste les gens, les personnes, les cobayes, dirons-nous,
la coupe
utilisés pour l'expérimentation sociologique que nous voyons sous nos yeux est différente. Est-ce que c'est une question de cobayes en fait?
Est-ce que c'est un truc avec Philippe Risoli ou pas?
Non.
Oui, c'est
Christophe de Chavannes.
Justement, assez marrant, c'est que oui, Philippe Risoli dans le cas.
Oh, mais merde.
Donc nous ne parlons pas bien sûr de Vidéogag. Qui continue sans notre cher Philippe Risoli.
Philippe Risoli n'a jamais présenté Vidéo Gag. Tu craques complètement.
J'essaie d'installer le mythe, merde. Ça fait une semaine que j'essaie de faire croire aux gens que Philippe Risoli présentait le Vidéo Gag. Alors que bien sûr, c'était le millionnaire et une famille en or.
Ouais, non, mais attends, mais le mec. Le mec. Dis donc, pour un intellectuel, tu regardes beaucoup la télé, comme te dirait ton.
Non, mais en fait, je crois qu'il présentait pas cette émission, mais j'essaie de lui faire porter le chapeau.
Le mec qui présentait Vidéogag et qui était complètement risible aussi, c'est Alexandre de Ban.
Tout à fait. L'homme qui comme a Fabien Lama, crache dans la soupe.
Non, mais attends, il y a eu un accident de moto, donc on n'a pas le droit de rire des.
C'est vrai, excuse-moi.
Voilà, bien. Donc, vas-y, fais ta chronique, parce qu'en fait, j'ai laissé sous-entendre qu'on était en avance, mais c'est pas forcément le cas, en fait.
Ah, d'accord. Donc, évidemment, vous avez pu tous cerner. Guillaume, en faisant la grimace, a bien compris de quoi j'allais parler. Et évidemment, je vais essayer de vous parler de La Ferme Célébrité 2. Et pour ce faire, je m'attelle à une tâche difficile qui est d'avoir essayé de vous en parler sans avoir regardé l'émission.
Le vendredi ou le samedi déjà ?
Le prime time devait être donc l'émission.
Olivier spécialiste qui arrive.
Modo, prime time, l'émission longue qui prend toute une soirée et sur laquelle on va faire sortir un mec, on va voter, on va revenir sur tous les événements de la semaine. Je crois a bien lieu le samedi soir.
Donc je confirme, j'étais avec toi samedi soir et donc tu n'as pas pu le regarder.
C'était le vendredi soir.
Ah, t'as essayé de feinter.
Tout à fait. Donc voilà.
T'as trouvé un alibi.
Guillaume avait raison. On était ensemble samedi soir, donc ça n'a pas pu avoir lieu vendredi soir. Enfin, que vendredi soir, merde, j'y arriverai. En attendant, donc, j'ai essayé de le regarder sous l'emprise comment dire, on peut même appeler ça une action fasciste de la part de mes colocataires qui m'ont empêché de mettre le son.
Ah ouais.
J'ai dû négocier pour au moins avoir l'image.
Ah mais ça peut être intéressant sans le son, comme les discours de Chirac.
C'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est une forme de narration qui s'accompagne toujours d'un texte explicatif. C'est-à-dire que si Mallory Natta fait le rein de faire une crise à la cuisine, parce que Princesse Erika se prend la gueule avec elle au sujet de faire la bouffe, enfin en tout cas ça a l'air d'être ça. Vous voyez l'action, vous le voyez en temps réel, vous avez le son, enfin moi j'avais pas le son mais vous avez le son, l'image. Et en même temps, en bas à gauche évidemment, il y a un petit texte qui vous dit Princesse Erika et Mallory Natta se prennent le chou. Littéralement.
Ça est hérité, n'est-ce pas, du paradigme qui a été. Après, on a donné un nom parce que la première fois que ça a été utilisé dans ce cas, c'était le loft. Et donc, le paradigme, c'est le paradigme Kenza et son soutien-gorge, puisque le sous-titre de production qui est resté dans les esprits comme manière d'illustrer une action qui est quand même absolument claire à l'écran, même sans le son. C'était Kenza et son soutien-gorge. Donc Kenza et son soutien-gorge, voilà.
Nous assistons encore une fois à l'effet Playboy.
Pas du tout. Non, mais attends, c'est très sérieux.
Non, c'est extrêmement sérieux.
Caroline, tu oublies quelque chose. C'est que Guillaume et moi-même sommes arrivés, j'ai fait une erreur de liaison, à la conclusion samedi soir qu'en fait on pouvait se divertir, n'est-ce pas, en écoutant du Mozart ou considérer le loft comme de l'art. Au sens où, citation de début, comme on l'a pas sur le MD, je suis obligé de la remettre pour que maman puisse l'entendre, la seule différence entre le divertissement et l'art, c'est le degré. Est apporté en fait par le degré d'implication temporelle du récepteur, c'est-à-dire du mec qui regarde ou qui écoute ou qui lit, etc. Donc en fait, si jamais je le prends à la légère, je me divertis, mais en recherchant, en m'appliquant temporellement, c'est-à-dire en prenant du temps pour analyser le contenu, et Clément, tu ne vas pas m'interrompre sinon je te coupe ton micro, eh bien là, on peut considérer que ça devient de l'art. Pour l'instant, c'est une ébauche de théorie, on n'a pas encore posé les fondements du système.
Ça repose sur des trucs solides hein, quand même. C'est-à-dire, mais on parle de différence avec un A dans différence, donc Derrida automatiquement, c'est-à-dire une différence temporelle et non pas quantifiable.
Le problème de ce fond sonore, c'est qu'il est sympa, mais l'intro a tendance à flinguer la conversation d'une force.
Quoi. Surtout que c'est que ça, en deux émissions, ça fait deux fois qu'il tombe en plein milieu où je parle. C'est troublant. Je me dis que je l'attire, je lui fais venir.
Le CD tombe toujours dans le même sens. Quoi. Non, en plus, la dernière fois, c'était pendant qu'Olivier parlait. Bon, moi, je te mets autre chose.
Non, laisse-le, parce que je l'aime en plus, je l'apprécie.
Ah bah, c'est dommage, tu vas être obligé de réécouter le début.
C'est pas grave. Voilà. On sent une. Non, il y a une montée. Il y a une montée qui permet une introduction d'une pensée philosophique.
Ça nous remet complètement dans l'ambiance de samedi soir où c'était. Voilà. Attends, tu vois, parce que l'art, je t'explique. L'art, en fait, l'art et divertissement. Et en fait, c'est le temps qui compte dans le divertissement de l'art.
L'art au cochon.
Voilà, l'art au cochon.
C'est le temps, tu vois, c'est le temps que le mec va prendre à écouter et à vouloir se documenter et s'informer. Enfin, donc pour en revenir à nos cochons, tant qu'à en parler. Eh bien, nous parlons actuellement, donc on essaie de vous faire comprendre que même la Ferme Célébrité 2 et toute autre forme de télé-réalité peut être une façon ou une autre de l'art, hein, vu que dans le principe, c'est quand même une toute nouvelle et toute récente méthode de narration audiovisuelle que l'on vient d'utiliser. Et on va utiliser à la fois les arguments, les éléments
due au documentaire, donc à la réalité. Les images qu'on vous montre, c'est les images de la réalité imprimées sur la pellicule. C'est pas rien, ça a été, tel que le disait Roland Barthes. Et en même temps, tout est monté, la preuve étant ces petites phrases narratiques qui t'expliquent un petit peu où est l'action, quel est le point central de l'action, et suit un scénario narratif de fiction. Vu que derrière, il faut croire qu'il faut pas oublier, hein. Il y a un réalisateur qui a fait la Fémis, qui a 4 ans de cinéma dans les pattes, qui a étudié tous les plus grands cinéastes de la planète, et il sait très très bien ce qu'il fait au montage.
Et
il
parce
fait
que pas l'objectif, rien au hasard. L'objectif d'ailleurs est de maintenir le spectateur en haleine de façon à ce qu'il continue à regarder, donc à regarder les pubs et donc à avoir du temps de cerveau disponible.
Mais
donc effectivement, la narration ne peut pas coller à la réalité au sens où la réalité est complètement terne, même chez des gens qui sont des célébrités, qui sont enfermés dans une ferme. Donc on sélectionne, et en fait en partant d'un matériau brut, on peut parler d'un sampling visuel, c'est-à-dire qu'on part du réel, c'est comme enregistrer des bruits de rue et faire un disque avec qui aura une certaine cohérence. Il y a des gens qui font ça, moi je cautionne pas tout à fait. Bien, mais non, effectivement, donc là on touche à une forme, c'est assez difficile à accepter, mais il faut voir que par l'effort qui est fait derrière, par un petit peu la nouveauté de la forme de ce type d'émission, on peut les considérer comme de l'art, au sens où l'art est aussi le reflet d'une époque, et au sens où moi ça me surprendrait pas que dans 30-40 ans, le loft en tant qu'émission fondatrice, hein, où ce type d'émission soit cité comme produit artistique, j'ai quand même vraiment du mal avec ça, mais produit culturel, c'est de l'industrie culturelle au sens fort du terme, de l'industrialisation du divertissement, comme étant représentatif de son époque. Il y a Clément qui pète un cas, vas-y, dis ton truc, parce que je sens que tu vas le garder.
Je suis désolé d'interrompre ce passage philosophique que je trouve extrêmement intéressant, je tiens à te le dire, j'en suis navré.
Ouais, mais
d'avance, tu as le droit de me mettre ton pied au cul, c'est autorisé. Mais là, en fait, il se trouve.
Dans la gueule, le pied, on dit.
Oui, aussi, souvent même. Mais il se trouve que Guillaume a un mouvement masturbatoire de son micro depuis tout à l'heure, qui est absolument à hurler.
Non, Guillaume l'autre, hein, pas moi. C'est-à-dire que Guillaume prend son micro à la. Moi, j'ai pas remarqué.
Voilà, comme ça, délicatement, c'est très très sensuel, fallait qu'on te le dise.
Bien, donc t'as réussi à placer ton quota de mots en masture. C'est bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant ou alors est-ce qu'on décide
fois
de.
Une fois par émission, c'est important qu'ils disent le mot.
C'est bien, c'est bien, ouais.
Toujours.
Je vais t'aider à relancer le sujet.
Par contre, on n'a pas dit psychédélique encore. Bah, ça y est.
Non. Voilà.
Je vais t'aider à lancer le sujet après cette interruption, ma foi, pourtant en plein dans la réalité. Parce que là, on parle de la réalité à travers la télé, à travers tout ça. Mais la réalité, on la voit en sortant dehors. Donc c'est bien de dire, voilà, on a une réalité mise en scène. Mais pourquoi la réalité, c'est sortir. Donc vous, samedi, vous avez regardé la ferme célébrité. Moi, samedi, je suis allé me faire un concert. C'est peut-être plus réel à mon goût.
Non, parce que, en fait, le souci de la mémoire humaine, le souci de la mémorisation humaine, le souci de la perception de la réalité, c'est que le cinéma, dans sa force, c'est ça. C'est qu'on perçoit la réalité en cinématographe. Tout ce qu'on perçoit, ce sont des images et du bruit. C'est très très rare qu'on perçoive, qu'on garde en mémoire, qu'on perçoive des odeurs, sauf peut-être dans la prime enfance.
Associé aussi à leur contexte cinématographique.
Alors que par contre, on
Etienne,
va surtout retenir ces éléments.
Toi, t'es jamais, jamais, jamais allé à la chasse aux morilles, parce que l'odeur du morille, ça ne s'oublie pas.
Voilà. Sorti d'arguments et d'éléments extraordinaires dans ce sens, le reste du temps, on voit en cinématographe. Je veux pas le citer parce que c'est une catastrophe ce mec, mais un musicien connu américain avait dit que la musique que l'on écoute au jour, au quotidien, c'est la bande originale de notre vie. Mais c'est tout à fait ça. La musique qu'on va écouter quand on va marcher dans la rue pour aller quelque part, qu'on va se mettre aux oreilles avec notre petit lecteur CD, MP3, n'importe, et qu'on va écouter, c'est notre bande originale. C'est la bande originale du film qu'on est en train de tourner avec nos yeux, et dont on prend l'image avec les yeux et qu'on prend le son avec les oreilles.
La chronique musique, je vais être obligé d'intervenir et dire que je suis pas d'accord, parce qu'en fait, tu peux aimer la musique en tant que part entière. Moi, je considère pas la musique comme la bande originale de ma vie. Je considère la musique comme une part entière et intégrante, un bloc uni, pas là pour accompagner la vie. Et c'est pour ça que, à ce niveau-là, enfin, c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord. Au niveau du cinéma, au niveau du cinéma et tout ça, il va y avoir un moment.
Le bec.
Merci. Continue, Caroline.
Si la demoiselle parle plus fort aussi, ça se règle. Hein. Et si elle mettait un casque, ce serait peut-être pas mal. Hein, parce que Guillaume baisse le bec. Guillaume, il est allé voir si le monsieur qui fait l'émission d'après, Antoine, pour Variety Store, était là. Et je sais pas, on l'attend. Mais bon, il a que 7 minutes de. Il a pas 7 minutes d'avance.
Si, il a encore 7 minutes d'avance.
Il a encore 7 minutes pour venir, ouais, non, mais c'est pour savoir si on peut s'étaler ou pas, quoi.
Bah, on y va là, de toute façon, on est parti. Comme t'as dit, on est en avance et en fin de compte, je regarde régulièrement, on a un peu de temps, toujours un peu de temps. Donc c'est assez agréable parce que au moins cette discussion s'enflamme un petit peu. Mais
Et qu'est-ce que tu fais donc dans ce cas-là, à mon avis, Caroline, des moments où tu écoutes la musique au volant, ou la musique que t'écoutes quand tu lis, ou tu fais autre chose que d'écouter cette musique?
Mais non, j'écoute de la musique pour écouter de la musique.
Mais est-ce que ça représente 100% de ton écoute auditive, ouais, de la musique?
Ouais.
Tu n'écoutes la musique que comme ça? Serre la main à Étienne qui te l'attend, parce qu'a priori il partage cette expérience.
Alors moi je pense pareil, enfin, mais ça dépend des musiques.
C'est
aussi,
pas très possible, parce qu'a priori en moyenne on écoute dans les 6 heures de musique par jour, dont 4 heures non conscientalisées. C'est une moyenne pas mondiale, c'est une moyenne, on va dire, occidentale. Voilà, parce que la musique qu'on écoute dans un ascenseur, c'est aussi de la musique.
Voilà, non, je suis content d'avoir un cogniticien dans cette émission.
Ouais, tout à fait, ouais.
Non, c'est vrai, c'est important. Mais c'est...
Non, mais
il a tout à fait raison.
Statistiquement, c'est complètement irréaliste. Enfin, je veux dire que tu peux pas écouter si t'es sûr. Ah, c'est avec le. Sur voilà, j'ai un trou. Sur 16 heures éveillées, t'écoutes 6 heures de musique. Mais, sachant qu'il y a 8 heures de travail où t'écoutes pas de la musique.
Voilà, non, mais écoute un peu quand t'es au rue, t'as la radio qui passe. Même si tu l'entends pas, tu fais plus attention, mais t'as la radio qui passe.
Je crois que c'est plus le cas, mais bref, mais, non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement.
Tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est une moyenne, je veux dire, les gens au boulot, il y a de la musique d'ascenseur, il y a la musique dans les couloirs. Maintenant, il y a même la musique dans l'espace café pour les gens qui ont la chance de travailler, qui sont pas étudiants comme nous, pauvres étudiants. Pitié, sauvez-nous. Et donc, globalement,
Étienne travaille, hein. Étienne à côté de ta gauche, travail.
Donc on écoute théoriquement dans les 6 heures de musique par jour, volontairement ou non. C'est une moyenne, c'est vraiment une moyenne, c'est très statistique. Ouais. Hein,
c'est comme mis bout à bout dans une vie humaine, on regarde 3 jours sa montre, quoi.
Exactement, voilà. Ouais.
C'est, y a des mecs pour mesurer ça, quoi.
Mais mis bout à bout, si on mettait tous les Chinois les uns sur les autres, on pourrait faire le trajet à la Lune et retour. Donc c'est complètement débile, j'en ai plein des comme ça. Mais je veux dire, t'imagines que tu écoutes de la musique sans en avoir conscience à longueur de journée. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, t'es dans le même la musique que t'écoutes sur ton lecteur MP3 et autres.
Non, mais tout à fait.
Tu fais
ouais.
Au bout d'un moment plus gaffe du tout. Donc c'est de la musique non conscientalisée.
C'est même pas vrai d'abord.
Comment ça, c'est même pas
non.
Vrai.
Bah oui, non, non. Et Étienne, tu t'en rends pas compte, mais c'est vrai qu'il est bien de savoir. Non, il est bien de savoir écouter de la musique, de savoir l'écouter au sens à mobiliser l'intégralité de son attention sur la musique qu'on écoute. Mais le fait est que qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, il y a une grande partie de l'ambiance sonore de notre quotidien qui est une forme de bruit organisé, donc de la musique, et que donc on a raison et toi t'as tort. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse continuer cette chronique, parce que là en fait notre ami Antoine est arrivé.
C'est... Ah merde, Guillaume s'est rendu compte que j'ai pas dit un mot de la ferme, merde.
Non, c'est bien, mais tant mieux.
Mais parce qu'en fait, en fin de compte, je n'en connais. À part vous dire que voilà, il y a une folle qui s'appelle Myriam, a priori, que Mallory Nataf s'est fait sortir, que donc que Princesse Erika est restée, et que Jordi a 17 ans, il est en 3ème. Comme quoi, le succès musical en bas âge n'est pas forcément un succès à long terme dans la vie professionnelle. Si Django Reinhardt a été foutu, enfin Django, je sais pas si c'est Reinhardt, mais bon, Django en tout cas est sorti parce qu'il est malade. Voilà.
Mais ça doit pas être Reinhardt, je pense.
Non, ça m'étonnerait aussi. C'est pour ça que je suis revenu.
D'ailleurs,
dit Django Reinhardt, je suis un peu revenu dessus.
C'est bien, bah comme ça vous vous êtes tenu au courant, ce qui veut dire que si vous êtes auditeur de Culture en Placard et que donc vous ne regardez pas la télé, vous pouvez quand même vous tenir au courant de l'actualité télévisuelle grâce à nous. Caroline, un dernier mot.
Oui, je vais terminer en disant, bah si pour vous c'est ça la réalité, effectivement il n'y a pas de réalité. Allez voir des concerts, allez voir des expos, allez voir à sortir et à ouvrir
les yeux.
Non,
mais tu as complètement déformé notre discours. On n'a pas dit qu'il fallait regarder la ferme. On essaie d'expliquer que dans la ferme, par le choix du montage, par le choix du décor, par le choix de la dramatisation, par un certain type de narration qui en plus est double, c'est-à-dire illustratif, il y a une forme... Ça m'arrache la bouche de le dire, mais il y a une forme de création. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que l'art est amoral, l'art c'est la vie, l'art c'est le piment du curry.
C'est un art.
Une vie sans art, c'est un petit peu comme un poulet au curry auquel il manquerait des noix de cajou.
Et il s'enfonce, et il s'enfonce.
Non, il touche le fond et il creuse encore.
Il est très bon. Et toutes les semaines, promis, il résume ma chronique rapidement, parce que sans
c'était
lui, je sais pas qu'est-ce que j'en ferais.
Je sais pas.
J'ai déjà pensé à contacter Edouard Baird, tu pourrais passer une audition.
Alors, à propos d'Edouard Baird, je suis désolé pour qu'on en parle une fois par émission. À propos d'Edouard Baird.
C'est notre quota encore, c'est encore un quota, au même titre que masturbation et psychédélique.
Alors attention.
Ce matin, c'est la Saint-Martin, on fait cochon.
Voilà, donc ça c'était à propos d'Edouard Baird.
Tant de paroles accordées.
Edouard Baird est un monsieur, bon, toujours à quoi bon son film. Alors je sais pas, là il passe plus des masses, mais c'est dommage parce qu'il est bien. Puis il y a quand même Poulvord et Jean Rochefort dedans, enfin son deuxième long métrage. Edouard Baird est dans la rubrique Mes disques à moi de Rock'n'Folk ce mois-ci, un excellent magazine Rock'n'Folk où donc en fait on prend une personnalité qui n'est pas forcément liée au monde de la musique, de l'art, enfin de l'art musical, et on lui fait parler de ses disques. Et c'est assez rigolo parce que Edouard Baird a un frère qui s'appelle Julien Baird qui lui a sorti un disque récemment qui paraît-il est pas mal. Bon, c'est de la chanson française gentillette, on aime ou on n'aime pas. Et donc c'est assez intéressant de voir que quelqu'un qui a travaillé sur Nova, qui a été pote avec Ariel Wiesman, qui se réclame comme le DJ éclectique, etc., a en fait une culture musicale extrêmement restreinte. Et si vous aimez Edouard Baird comme moi je l'aime, et comme moi je le respecte, et comme il m'habite. Et là, il y a des gens qui rigolent, c'était obligé. Eh bien, je
que
vous conseille d'aller lire ça. Ouais, non, mais Caroline d'absorber dans son magazine quelconque. C'est Rock'n'Folk, j'espère, c'est pas le Playboy.
Non, c'est Longueur d'onde.
Ah oui, il est bien celui-là. Bien. Donc, pendant qu'on continue à bouquiner, on va peut-être dire bonjour à Antoine. Antoine ? Voilà, il est bien, c'est bien. Il va avoir 7 minutes pour se préparer, puisqu'on va écouter un excellentissime morceau. Il s'agit du dernier morceau du dernier album des Chemical Brothers. Alors les Chemical Brothers, sur chaque album, nous gratifient d'un énorme morceau extrêmement long et complètement épique, et qui monte et qui vous prend et qui vous emporte ailleurs et qui vous laisse pantelant comme après avoir fait l'amour avec un ange, et je pèse mes mots. Et là, sur celui-ci, c'est Surface to Air, c'est-à-dire on part du sol et on arrive en l'air. C'est magnifique, c'est beau, les mots me manquent, et on vous laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. Et donc après ces magnifiques 7 minutes de Chemical intense, d'alchimie musicale, et bien vous retrouvez Antoine avec Variety Store. À la semaine prochaine, vous écoutez Graphite 94.9, les Chemical Brothers, Surface to Air, sur leur dernier album qui s'appelle Push the Button.